explorer de nouveaux mondes étranges,
traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
Amis de l'aventure, l'aventure nous attend.
Il est allé jusqu'au Tibet secourir son ami Chang, a exploré le fond des mers à bord d'un sous-marin en forme de requin, s'est propulsé sur la Lune 19 ans avant Neil Armstrong. Et il a même fait des voyages qu'aucun autre après lui ne fera, dans des pays imaginaires comme la Sildavie. Cet après-midi, nous partons bivouaquer au milieu des bulles et des cases des albums d'Hergé à la rencontre de son héros devenu culte, Tintin. Pour cette incursion dans le monde de la BD, nous aurons pour guide Benoît Peeters, écrivain. Il est l'auteur de Hergé, fils de Tintin, chez Flammarion. Une biographie très complète sur Hergé qu'il a rencontré à plusieurs reprises. Également avec nous, l'historien Michel Pierre, voyageur et grand amateur de Tintin. Il a participé à la rédaction du Géobook « Bien choisir son voyage sur les traces de Tintin ». Tous deux vont nous emmener dans les aventures du plus célèbre reporter de l'histoire de la bande dessinée. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre sociologue de l'alimentation pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, Éric Birloez nous emmènera sur les routes de la banane. Voilà pour le programme du jour. Cette émission a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne et David Leprince. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Oui, allô? Quoi? Oh non! D'accord, j'arrive tout de suite. Allez, viens, Milou. En route pour de nouvelles aventures.
Benoît Peeters, il en a vécu des aventures, Tintin. 23 albums, 23 aventures. Combien de pays traversés?
Ah ça, j'ai pas fait le compte, mais presque une aventure par pays, parce que ouais. Tintin, c'est d'abord le voyage. Ouais. C'est peut-être ça qui le rend belge, d'ailleurs. Né à Bruxelles, son premier geste, c'est de prendre le train, de partir pour la Russie, puis de prendre le bateau, de partir pour le Congo, pour l'Amérique, pour l'Orient. On a l'impression que la Belgique n'est là que comme un point de départ. C'est pas du tout un héros. Ouais. Nationaliste, c'est pas vrai. Un héros porteur de sa propre culture, il est porteur d'abord de la curiosité.
Ouais. Avec peut-être le petit bémol sur le Congo, mais on aura le temps.
Il y a des bémols. Tous ces voyages ne sont pas forcément exemplaires.
On aura le temps d'y revenir. Michel Pierre, c'est vrai qu'il utilise tous les moyens de transport. Hein. Là, il est moderne de ce point de vue-là, Tintin.
Oui, non seulement il les utilise, mais il les pilote en particulier pour les avions, oui. Avec une facilité totalement déconcertante. Autrement, il a pris tous les trains de la planète et il a été aussi un grand marcheur. Comme Hergé, du reste.
Ah oui.
Je marche, donc je pense, me semble coller assez bien et à Hergé et à Tintin.
Il a pris des paquebots, des cargos, imaginaires au niveau du nom, mais très inspirés de bateaux réels.
Alors, parfois, c'était vraiment... Il a pris le Normandie, par exemple. C'est reconstitué. Alors, parfois, avec une erreur pour les puristes, c'est-à-dire la troisième cheminée du Normandie est montrée en train de fumer, alors que c'était une fausse cheminée qui servait en particulier de chenil pour les chiens.
Mais oh là là, vous êtes vraiment un vrai spécialiste, hein, là, incollable.
C'est un peu le hasard, ayant eu à travailler sur les paquebots un petit peu mythiques, on pense à ça.
Et alors les routes aussi, hein, à l'image de son créateur, hein, il passe son temps sur les routes, avec dans les cigares du Pharaon par exemple, hein, on le voit là encore reprendre la route. Et pour chaque pays traversé, Hergé a le souci du détail. La plupart des albums sont hyper réalistes.
Alors ce qui est fascinant, c'est qu'Hergé a très très peu voyagé.
Ouais.
Hergé rêve d'être grand reporter, alors qu'il est au début employé dans un journal, à l'administration. Et au fond, à travers Tintin, dès 1929, il réalise son rêve d'être une sorte d'Albert Londres partant à la découverte du monde, ou de Joseph Kessel. Et Tintin va, lui... avoir la capacité de pénétrer d'emblée les pays, pas de barrière de langue, il comprend les civilisations, on se demande comment ce garçon qui a peut-être 17 ans, quelque chose comme cela, qui sait tout sans avoir rien appris. Hergé, lui, effectivement, passé les trois premières aventures, Soviet, Congo et Amérique, Hergé commence à se documenter très sérieusement, de plus en plus sérieusement. Mm-hmm. Le tournant, qui est bien connu de tous ceux qui aiment Tintin, c'est le Lotus Bleu.
Ouais.
Parce que là, Hergé, qui a 27 ans, rencontre un jeune chinois et à travers lui, commence à prendre conscience de la nécessité de donner une image authentique, ouais. Une image documentée des pays. Mais il continue à ne pas voyager et ce n'est que sur le tard qu'il fera ses premiers voyages au moment où Tintin, lui, va devenir un peu sédentaire.
Ouais. Alors Tintin est-il le héros que Hergé aurait aimé être ? Je vous propose d'écouter Hergé lui-même en 1979 dans Radioscopie face à un Jacques Chancel qui le bouscule un peu.
Tintin s'est voulu grand reporter et en fait, si oui. On analyse un peu, il faut se méfier de toute manière des analyses
oui,
parce que parfois
sûr,
on va
oui.
plus loin que le créateur oui. lui-même. Mais quand même, Tintin a été ce que vous n'êtes pas,
non,
c'est-à-dire Albert Londres,
oui.
Joseph Kessel,
oui,
Lucien
ça,
Baudard,
oui,
enfin beaucoup d'autres.
Oui, c'est sûr, c'était les grands voyageurs.
Alors peut-être êtes-vous passé à côté de votre propre vie et vous avez donné votre vie à un personnage complètement imaginé, inventé, fabriqué de toutes pièces.
C'est possible.
Et peut-être que vous n'avez pas vraiment vécu.
Je crois que j'ai vécu, mais il est possible, ça aurait pu être autrement. Enfin, ça a été ceci, et je crois que je m'en accommode très bien.
Il y a un manque quand même quelque part,
pas
non ?
Pas du tout, je ne le vois pas.
Mais vous avez beaucoup voyagé vous-même ?
J'ai très peu voyagé.
Alors vous faites voyager Tintin, vous ne voyagez pas ?
Très peu, parce qu'on ne peut pas emporter sa table à dessin avec soi, ni sa documentation, ni ses collaborateurs, etc. Non, je m'accepte totalement, je crois, comme je suis. J'étais fait pour, me semble-t-il, pour raconter des histoires, les histoires que je raconte.
Le grand sourire, un peu surpris de nos invités devant ce Jacques Chancel qui insiste, mais vous n'avez pas vécu.
Qu'est-ce que c'est vivre ? Moi qui ai raconté la vie d'Hergé, je peux vous assurer qu'il a vécu, mais il a beaucoup vécu effectivement à sa table et il nous a fait voyager. Et ce qui est fascinant, on en a déjà parlé avec Michel Pierre, c'est qu'on se retrouve à Shanghai qui est totalement bouleversé. On découvre le Pérou si on a la chance d'y aller. On a le sentiment que Tintin y est vraiment allé. Les années ouais. ont beau être passées, ce Hergé sédentaire a réussi à restituer l'essence de ces pays.
Peu importe qu'il ait pris ses trains, puisqu'il nous les a fait prendre, comme d'autres.
Il les a pris en dessinant, je crois.
Ouais.
Et évidemment, il a collecté de la documentation, mais aussi beaucoup de rencontres. Très souvent, ce sont des gens, des voyageurs qui lui ont donné ce détail. Mmh. Il s'intéressait aux costumes, aux manières de table, à ce qu'on mange. Et c'est ce sentiment de réalité que Tintin nous donne.
Ouais. Michel Pierre, vous qui êtes un grand voyageur, et d'ailleurs c'est un peu le principe de du livre auquel vous avez participé, Géobook, Bien choisir son voyage sur les traces de Tintin. Il vous arrivait souvent de passer à travers des pays et de dire « Mais oui, Tintin y est venu avant moi ».
Ah oui, mais ça c'est aussi des souvenirs d'enfance. Donc on se retrouve à Chicago ou à New York, même si les skylines ont un peu changé. Et on est sûr, bien sûr, d'y être déjà venu. Ou quand on arrive à Lima, ou quand, au contraire de Tintin, on comprend pas les inscriptions à Shanghai ou ailleurs. Et bien sûr qu'on y est venu. Donc c'est permanent. Ça rejoint un peu ce que disait aussi Céline. Le voyage, ça stimule l'imagination.
On va stimuler votre imagination. Allez, on part à l'aventure avec Tintin, le temps d'un bivouac sur France Inter. Et pour commenter l'émission, il y a notre page Facebook.
Jones!
Back in the USSR, c'était les Beatles sur France Inter et merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
Oh, oh, oh. Qui va là? Qui est-ce qui ose s'en prendre au capitaine Haddock? Personne? Ah, c'est peut-être le whisky. Ah. Mais...
Ne dites pas un mot.
Qui êtes-vous?
Quelqu'un qu'on a embarqué de force sur ce maudit cargo.
Maudit cargo, sachez que j'en suis le capitaine et que je peux vous faire mettre au fer, maudit cargo.
Merci, je sors d'en prendre. J'ai déjà passé beaucoup trop de temps dans vos cales pleines d'opium.
De l'opium? Dans mes cales?
Vous l'ignorez?
Mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis un honnête homme qui a bien pu me faire un coup pareil.
Votre cher lieutenant Alan, par exemple.
Oh, ne dites pas de bêtises. Alan est un bon marin. Il est loyal, dévoué.
Et généreux avec le whisky. Rendez-vous à l'évidence, capitaine, vous avez été trompé. En vous faisant boire, Alan fait de votre bateau ce qu'il veut, y compris du trafic de drogue.
Tonnerre de Brest, j'ai été roulé, et par mon propre équipage en plus. Je suis l'ange de la marine.
La rencontre entre Tintin et le capitaine Haddock. On est dans quel album, là? Je teste mes invités, Michel Pierre.
Dans le crabe aux pinces d'or.
Évidemment, le crabe aux pinces d'or. C'est-à-dire que le capitaine Haddock ne fait pas partie tout de suite des aventures de Tintin, Benoît Peters.
Bah, longtemps, Tintin voyage avec Milou et partage la parole avec lui. Milou est un vrai alter ego et quand le capitaine Haddock arrive, Milou est un peu éclipsé. Il perdra le don de communication avec son maître. Il est vrai qu'Haddock, lui, il est fort en gueule. Ouais. On se souvient de ces insultes qui n'en sont pas, mais qui sont extraordinairement efficaces.
Ouais. Et puis c'est un personnage alors un peu ambigu qui à la fois incarne le voyage, hein, puisque c'est un vieux loup de mer, mais en même temps, on peut ranger des voitures, on a l'impression qu'il est devenu un peu casanier, ce capitaine.
Bah, au début, c'est un personnage catastrophique, c'est un alcoolique pitoyable et Tintin le sauve. Ouais. Et donc, il y a un rapport père-fils qui est très étonnant, puisque ça devrait être théoriquement Haddock, le père de Tintin, mais en réalité, c'est Tintin qui véritablement l'éduque et fait de lui le châtelain de Moulinsart et le gentleman farmer qui aura de moins en moins de goût pour les grands voyages.
Ouais. Est-ce que Hergé, dès le début, est-ce qu'on le sait, ça d'ailleurs, si Hergé, dès le début, savait, en faisant arriver dans le crabe aux pinces d'or le capitaine Haddock, que ça deviendrait le personnage secondaire juste après Tintin?
Eh bien, on sait que Hergé a été le premier surpris. Ah oui. Il le raconte dans une interview de 1942, il dit « Tintin rencontre un marin perdu, j'ai fini par l'adopter et Tintin s'y est attaché ». C'est très joli parce qu'au fond, tous les personnages des aventures de Tintin apparaissent au moment où on a besoin d'eux et ont besoin de se frayer une porte dans le récit. Vous vous souvenez peut-être que le professeur Tournesol, qui apparaît dans le trésor de Rackham le Rouge, le professeur Tournesol, au début, c'est un bricoleur catastrophique qui fait des machines à brosser les vêtements, qui déchire tout, et dont personne ne veut. Et il va devoir s'embarquer sur le navire à la recherche du trésor comme passager clandestin. Mmh. Et pourtant, après, Tournesol, comme Haddock, s'inscrit profondément dans la famille Tintin.
Alors, les personnages secondaires évoluent, Tintin aussi, et finalement Hergé avec son personnage. Vous commenciez à nous le dire tout à l'heure, les premiers albums, les premiers voyages sont un peu prétexte. Hein. Tintin au Congo, tout le monde l'a remarqué, c'est empreint de colonialisme. Tintin ne rencontre pas vraiment les gens qu'il croise sur sa route. Mais très rapidement, quatrième album, Le Lotus Bleu, il y a un déclic.
Ce qui est extraordinaire chez Hergé, c'est la capacité d'évolution. Et c'est vrai qu'au début, bon, c'est du travail, comme il le disait à la petite semaine, c'est un feuilleton sans vrai enjeu, il n'a pas de documentation très très fouillée, il véhicule les clichés de son journal. Ouais. Mais très vite, au moment où en fait un abbé, qui est l'aumônier des étudiants chinois à Louvain en Belgique, voit dans le Petit 20e, le journal où paraissent les aventures, que Tintin annonce son départ pour la Chine, il lui écrit une lettre, il lui dit « Mais faites attention, je travaille moi avec des étudiants chinois, si vous dépeignez une Chine d'opérette, une Chine mythologique, de clichés, vous allez blesser ». Et Hergé pourrait se dire, je ne travaille pas prioritairement pour les étudiants chinois de Louvain, c'est quand même une part assez minoritaire de son pays. Non, il dit « Mais je ne demande pas mieux que de me documenter, pouvez-vous m'indiquer des livres, des magazines, mais surtout, pourriez-vous me faire rencontrer un de ces étudiants ?» Et là, il va y avoir quelque chose de miraculeux, c'est que cet abbé à l'intelligence d'envoyer un étudiant aux Beaux-Arts qui va non seulement faire découvrir la réalité de la Chine, la réalité de l'agression de la Mandchourie par le Japon, etc., mais en même temps initier Hergé à toute une culture, à une nouvelle tradition graphique, au maniement du pinceau. Et cette amitié avec Zhang Chongzhen marque vraiment une rupture dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'Hergé, à ce moment-là, se sent comme chargé d'une responsabilité. Il y a un côté militant dans le Lotus Bleu, et c'est une leçon qu'Hergé gardera toujours.
Et Chang, c'est le seul personnage que Hergé rencontre dans la vraie vie, et il prend son nom et il lui donne le nom d'un personnage que son héros Tintin va rencontrer. Tintin va rencontrer Chang, c'est dans le Lotus Bleu, et un jeune homme se noie, Tintin va le secourir, et il s'appelle Chang, et ils font connaissance juste après.
Comment t'appelles-tu ? Moi, je me nomme Tintin.
Moi, Chang Chongzhen. Pourquoi m'as-tu sauvé la vie ?
Quoi ?
Je croyais que tous les diables blancs étaient méchants, comme ceux qui ont massacré mon grand-père et ma grand-mère il y a longtemps. Le père m'a dit que c'était pendant la guerre des points de justice.
Ah oui, la guerre des boxeurs. Mais non, Chang, tous les blancs ne sont pas mauvais. Le problème, c'est que les peuples se connaissent mal. Beaucoup d'Européens, par exemple, s'imaginent que tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels, qui portent une natte et qui passent leur temps à inventer des supplices et à manger des œufs pourris et des nids d'hirondelles.
Ah bon ?
Oui, et ils croient aussi dur comme fer que toutes les Chinoises ont des pieds minuscules et qu'aujourd'hui encore, on fait subir 1000 tortures aux petites filles pour empêcher leurs pieds de se développer normalement.
Quelle drôle d'idée !
Il y a même des gens qui sont persuadés que toutes les rivières de Chine sont pleines de bébés que l'on a jetés à l'eau dès leur naissance. Voilà, mon cher Chang, comment nombre d'Européens voient la Chine.
Ils sont doux, les habitants de ton pays, Tintin.
Extrait du Lotus Bleu, donc adapté par France Culture. Alors là, Hergé en profite même pour déballer toute la litanie des clichés et en rire avec le Chinois qu'il a rencontré, Chang. On est vraiment, on se dit quel chemin parcouru entre cet album et Tintin au Congo.
Il y a un chemin qui ne fait que commencer, parce qu'Hergé cherchera toujours à se renouveler, à se dépasser dans le dessin, dans le récit, dans la thématique, cherchant beaucoup plus tard l'émotion avec Tintin au Tibet, cherchant l'anti-aventure avec les bijoux de la Castafiore. Moi, c'est ce qui me fascine, parce que c'est une époque où personne ne parlait de la bande dessinée comme du 9e art, où personne ne venait retrouver Hergé dans les années 30 pour lui dire « Alors, le Lotus Bleu, c'est un tournant dans votre œuvre. » Et malgré cela, il y avait ce désir d'introduire tout ce qu'il était, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il vivait dans cette série d'abord destinée aux enfants et qui aujourd'hui enchante toutes les générations de lecteurs.
Et Chang, cette amitié avec Chang, elle va durer, hein. C'est pas momentané.
C'est une histoire merveilleuse et mythique, puisque Chang repart en Chine en 1936, avant même la sortie du Lotus Bleu. Il va vivre sa vie de sculpteur et d'artiste. Il connaîtra la révolution culturelle et Hergé, pendant ce temps-là, continue à penser à lui, le réintroduit dans l'album Tintin au Tibet. Et à la fin de leur vie, les deux hommes vont se retrouver. Et donc, cette amitié de jeunesse va tourner au mythe, puisqu'on ne saura plus très bien, au moment où Chang rentre en Belgique puis en France, on ne saura plus très bien si c'est le Chang de papier, le Chang des albums, ou le Chang réel qui est revenu. C'est une des dimensions mythiques de l'œuvre d'Hergé. Ouais.
Michel Pierre, vous voyez aussi une évolution au niveau du trait, évidemment, du dessin d'Hergé.
Oui, je trouve que dès Tintin chez les Soviets, il y a pas les toutes premières planches, mais assez rapidement, une espèce d'énergie, de rapidité, de simplicité, de dynamisme dans le dessin qui ne demandait qu'à être rejoint par une forme de nouveau dynamisme dans le récit, ce que fait le Lotus Bleu, mais ce que fait aussi un petit peu même Tintin au Congo. Je dirais que même Tintin au Congo, ne revenons pas sur toutes les polémiques qui ont pu avoir lieu, et à mon avis, il n'y a pas lieu de polémique, mais Hergé est presque, à cette époque-là, presque en retrait sur d'autres discours qu'on retrouve dans la presse de l'époque. Un certain nombre de personnages du Congo sont loin d'être ridicules dans cet album. Et un certain nombre de jeunes lecteurs de l'époque ou de plus tard se sont largement autant identifié au petit noir Coco qu'à Tintin. Tintin, il est presque vide et sans intérêt dans Tintin au Congo. Ceux qui sont intéressants, c'est à la limite l'homme léopard et c'est un certain nombre d'autres personnages. Donc, il faut toujours faire très attention en tant qu'adulte quand on plaque des réflexes qu'on pense être celui d'un enfant lisant une bande dessinée ou un autre texte. En général, on se trompe.
Benoît Peters, on se rend quand même compte qu'il est plus sensible à la je sais pas, aux considérations géopolitiques des pays qu'il traverse dans les albums qui suivent.
Oui, bah, Hergé Murie, il a commencé très tôt. Hein, il n'a pas fait d'études, il n'y a pas de formation ni graphique, ni narratif, ni philosophique, ni historique. C'est vraiment au fur et à mesure de son travail, en cherchant à progresser, qu'il découvre des choses. Alors, on a des éléments extrêmement curieux. Par exemple, un album d'avant-guerre qui est Le Sceptre d'Ottokar. Dans cet album, on voit Hergé traiter de l'actualité de la fin des années 30, c'est-à-dire la menace nazie, l'annexion de l'Autriche qui va transposer dans un pays imaginaire. Mais on voit Hergé se documenter de façon extraordinaire. Par exemple, un traité politique important, Michel Pierre le sait sans doute, le livre de Malaparte, qui s'appelle « Technique du coup d'État ». Eh bien, « Technique du coup d'État » fait partie des lectures d'Hergé quand il prépare le sceptre d'Ottokar. Il va donner une crédibilité à l'action politique. Alors, le jeune lecteur ne perçoit peut-être pas tout, mais à travers Tintin, à travers Hergé, il sent la complexité du monde qui l'entoure. Et Hergé traite tout cela à chaud.
Et alors, pourquoi fait-il se dérouler l'action dans des pays imaginaires? Puisque, effectivement, les clés sont assez évidentes. Hein, on voit avec ce dictateur Mussler, qui est à la fois Mussolini et Hitler, une sorte de contraction. Enfin, il y a énormément de références à des vraies situations géopolitiques de son époque. Mais cette fois-ci, il choisit la Cildavie.
La Bordurie.
Oui,
c'est une preuve de plus du génie d'Hergé, parce que ça donne une sorte d'universalité à l'action, la volonté d'annexion d'un pays par un autre plus puissant, d'une petite monarchie parlementaire, par un État qui évoque beaucoup les États totalitaires du moment. Ouais. Il faut dire qu'Hergé avait eu quelques ennuis après le Lotus Bleu.
C'est ça aussi. Hein,
les autorités japonaises et même chinoises s'étaient plaintes auprès de son journal du traitement trop réaliste de la situation. Ouais. Hergé avait échappé de peu au procès et donc il prend cette attitude qui est aussi prudente.
Ouais. Donc il y a aussi une façon de se protéger.
Oui, mais de styliser l'actualité, ce qui la rend peut-être pour un enfant d'aujourd'hui parfaitement lisible, même s'il ignore tout de l'Anschluss de l'Autriche par l'Allemagne nazie.
Il est justement très, très précis sur un coup d'État. Il mentionne bien, effectivement, la référence à Malaparte et à quelques autres est intéressante. Les conseils qui sont donnés pour le coup d'État, c'est le poste de radio, le champ d'aviation et après le palais royal. Mmh. Si vous faites un coup d'État au XVIIIe ou au XVIIe siècle, vous commencez par le palais royal. Mais là, Hergé décrit un coup d'État moderne. Vous commencez par la radio, par prendre le contrôle de la radio, par prendre le contrôle des moyens de communication aériens, et vous vous occupez après du siège du pouvoir. C'est une formidable leçon de géopolitique à un moment donné, le sceptre d'Ottokar.
Et chose extraordinaire, il devance ce qu'on appellera en Belgique la question royale, c'est-à-dire l'abdication du roi, puisque dans le sceptre d'Ottokar, il est question d'un roi fragile, Muscardus de Cildavie, qui doit montrer son sceptre chaque année, sinon il doit abdiquer. Or, 10 ans plus tard, c'est le roi des Belges, Léopold III, qui devra abdiquer et céder le trône à son fils. Et là aussi, on peut voir un côté prémonitoire sur le plan géopolitique.
Il a un côté visionnaire dans plusieurs cas. Mais alors, d'ailleurs, la Cildavie, le Cildave, ça rappelle un patois flamand, paraît-il. Donc, il s'inspire aussi un peu de ce qu'il connaît dans son...
C'est plein de clins d'œil au patois bruxellois qu'Hergé a entendu pendant son enfance. Et alors, on a une lecture pour les vieux bruxellois ou les flamands, et puis une lecture normale. C'est-à-dire que quand on traduit la langue sildave, par exemple, la formule principale du roi « Eibenek, Eiblevek » veut dire officiellement « qui s'y frotte, s'y pique », c'est en brandissant le sceptre, mais en bruxellois, ça signifie plus crûment « j'y suis, j'y reste ».
Ah oui, d'accord, il y a plusieurs lectures. Et la force de la fiction et de la BD, c'est que ce pays imaginaire, la Cildavie, à force d'entrer dans toutes les têtes, eh bien aujourd'hui, il a même son hymne que l'on peut vous faire écouter à la radio. Alors, Michel Pierre, vous bondissez, vous me sortez de votre sac un petit carnet d'opéra, parce que c'est vous à qui on a confié cette lourde tâche de finir d'écrire l'hymne cildave. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est une histoire. Quand je m'occupais des affaires culturelles à Bordeaux, nous avions eu l'idée pour le 1er avril de l'an 2000, pour les festivités de l'an 2000, d'organiser le récital de la Castafiore à l'Opéra de Bordeaux. Et comme évidemment cet événement considérable ne pouvait être accompagné que de la présence du roi et de la reine, nous avons décidé aussi de composer un hymne national. Donc la musique a été confiée à un musicien professionnel. Et comme nous n'avions pas suffisamment de textes, avec ce qu'avait Hergé avait laissé un refrain et un couplet. Donc je me suis permis, avec les autorisations évidemment nécessaires, de compléter cet hymne, et je suis quelque peu ému parce que je l'avais. C'est un hymne finalement assez peu joué et entendu, et je crois que je ne l'avais plus entendu depuis 17 ans.
Et ben voilà, parce qu'il avait été effectivement joué le 1er avril 2000, et on le rejoue sur l'antenne de France Inter. C'est vrai que vous aimez aller un peu gratter dans les cases d'Hergé, et notamment jusqu'à dans les assiettes. C'est-à-dire que vous êtes intéressé à ce que mange Tintin, et notamment en Cile d'Avis, on lui fait manger quelque chose de pas terrible.
Non, il y a un moment, c'est pas en Cile d'Avis, c'est dans un restaurant Cile d'Avis où il est confronté au fait de manger du chien. Mais dans beaucoup d'autres endroits, il fait partie de ces héros de bande dessinée, ce qui est assez rare finalement, parce que les héros de bande dessinée, on a l'impression qu'ils n'ont pas de fonction, je dirais, naturelle. Mais Hergé mange, il boit aussi, hein. N'oublions pas que...
Tintin, vous voulez dire. Parce que Hergé mangeait et buvait, ça, on n'avait pas de doute.
La confusion est normal. Donc Tintin mange, Tintin boit, Milou aussi. Hein. On parlait de l'alcoolisme d'Adoc, mais il a au moins un trait commun avec Milou, c'est le goût du whisky. Quand même, la scène où on voit Milou renversé sur le dos recueillir des gouttes de whisky d'un wagon citerne entier est quelque chose qu'on verrait difficilement dans une bande dessinée d'aujourd'hui. Mmh. Donc il y a le goût des saveurs. C'est vrai que Tintin a un goût de la cuisine du monde tout à fait étonnant. Ouais.
Benoît Peters, qu'est-ce que vous pensez? Alors, vous l'avez rencontré quand même, hein, 4 fois Hergé, donc vous le connaissez un peu. Est-ce qu'il s'amuserait, est-ce qu'il serait surpris de voir qu'on disserte comme ça à la radio, jusque dans les menus de ce que mange Tintin? Il pensait que ça prendrait cette ampleur?
Je crois qu'il serait très surpris en nous entendant, en voyant la bibliographie immense, 400 ouais. livres qui sont parus autour de son œuvre, parce que il était déjà épaté dans les dernières années de sa vie par le fait de recevoir par exemple des lettres du monde entier d'enfants de Calcutta, à l'époque pas encore d'enfants chinois, mais aujourd'hui ce serait les enfants chinois. C'était déjà quelque chose qui l'étonnait. Il n'a pas souhaité qu'il y ait d'album de Tintin après sa disparition. Il pensait que c'était une œuvre personnelle, donc il devait penser qu'inévitablement elle s'éteindrait un peu avec lui, qu'elle deviendrait un classique de la bande dessinée, mais plutôt dans les bibliothèques. Or, l'œuvre est extraordinairement vivante, et surtout, elle reste d'une grande fraîcheur. Je citais la Chine, les enfants chinois qui n'ont pas eu la même transmission de génération que les enfants chez nous, eh bien, ils adoptent Tintin comme un héros d'aujourd'hui et pas comme un héros du passé.
Ah oui, elle n'est pas prête de s'éteindre, l'œuvre d'Hergé.
C'était Ten Ways, chanté par Saya Gray dans le temps d'un bivouac.
Allô, ici Tintin. Je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le sas. Prêt, mon brave Milou? Nous sommes prêts, capitaine.
C'est parti, Moussaillon.
Dépressurisation du sas.
Attention, houdienne, ouverture de la porte.
L'instant est solennel. La porte extérieure tourne lentement sur ses gonds. Oh, quel spectacle hallucinant! C'est, comment vous le décrire? C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe, pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles, immobiles et glacées, sans ce sentiment qui, de la Terre, nous les fait paraître si vivantes.
Et nous voici donc sur la Lune avec Tintin et nos deux invités, Benoît Peters, auteur de Hergé, fils de Tintin, chez Flammarion, et Michel Pierre, auteur du géobook Bien choisir son voyage sur les traces de Tintin. Quand est-ce que Hergé a décidé d'envoyer son héros sur la Lune, Benoît Peters?
Ce qui est très étrange, c'est que ce projet naît immédiatement dans l'après-guerre. Donc vers 1946, Hergé commence à y réfléchir, il va dessiner les premières pages 1950, mais en fait ça correspond à une période très tourmentée. Oui. On en a un écho d'ailleurs dans cette description que Tintin donne, un paysage de mort, un paysage désolé. C'est pas la première chose qui nous viendrait à l'esprit, on pourrait penser qu'il y a un acte héroïque. Or, pour Hergé, au fond, envoyer Tintin sur la Lune, c'est une façon d'oublier toutes les difficultés qu'il vient de traverser pendant la guerre et pendant l'après-guerre. Il a été accusé de collaboration, il a vécu une période très difficile, il était en pleine dépression, sa mère est devenue folle, et partir sur la Lune, c'est au fond s'éloigner de tout ça. Il va y avoir une épopée, mais une épopée accouchée dans la douleur. Parce que Hergé doit atteindre un degré de précision, de documentation. Il va avoir les plus grands spécialistes de son temps. Il accumule toute une bibliothèque sur le sujet. Et c'est ce qui fait que cet album qui est fait entre 50 et 53 garde pour nous, qui connaissons toutes les images de la véritable conquête de la Lune, cet album garde une présence, une crédibilité. Bien sûr, la vraie fusée qui arrivait sur la Lune n'avait pas de carreaux rouges et blancs,
ouais.
Mais la manière de descendre sur la Lune, et même ce titre, ce titre génial, on a marché sur la Lune. C'est pas Tintin a marché sur la Lune, c'est nous tous,
ouais.
Nous lecteurs du journal Tintin, nous lecteurs d'aujourd'hui, on a marché sur la Lune. C'est quelque chose qui montre le sens du mythe et qui rapproche évidemment Hergé de Jules Verne.
Ouais. Oui, c'est assez incroyable. Hein. C'est à se demander. Il s'est entouré de scientifiques pour écrire cet album. Comment il a fait pour... Même des scientifiques hein, qui sont fans de Tintin se sont penchés un peu plus précisément et disent, il dit des choses très justes dans cet album.
Oui, il y a un certain nombre de choses qui viennent des lectures de son temps, de magazines assez pointus et véritablement scientifiques. Il y a aussi ceux qui se sont penchés sur la question qui ont dit à un moment, mais c'est impossible que la fusée, après être partie dans l'espace, puisse à nouveau atterrir comme elle le fait dans On a marché sur la, à la fin de l'album dans ouais. On a marché sur la Lune. Sauf que en 2015, avec le projet américain Blue Origin, on voit très bien comment on peut faire partir une fusée et la faire réatterrir en quelque sorte à peu près de la même façon elle avait décollé.
Vous êtes en train de nous dire, Michel Pierre, qu'on n'a même pas mesuré à quel point il était visionnaire, c'est-à-dire que dans son album, il nous parle d'un futur qu'on ne connaît pas encore exactement, mais qui va venir.
Oui, et que même un certain nombre de scientifiques, il y a une dizaine d'années, n'envisageait pas.
Ouais. Et à un moment, on s'est moqué d'Hergé en disant, il représente de la glace sur la Lune, c'est une invraisemblance, jusqu'au moment où d'autres scientifiques ont identifié des traces possibles de glace. C'est très curieux parce que même dans les hypothèses controversées ou les soi-disant erreurs, il y a des traits de génie d'Hergé. Ouais.
C'est-à-dire que là où il s'est autorisé
des petites libertés,
et finalement,
c'était pas si mal vu.
Il y a juste un souci sur le fait, est-ce que l'envoi dans l'espace fait augmenter le système pileux, comme pour les deux Dupont. Là, nous n'en savons encore assez peu.
Mais ça, c'est une rechute de l'or noir, si mes souvenirs sont bons.
Pourquoi justement il rechute dans l'espace?
Ah oui, alors ça, oui.
Il y a eu peu d'expérience. On a envoyé peu de Dupont depuis pour faire un test véritablement crédible.
On parlait tout à l'heure des clichés qu'il avait un peu abandonnés petit à petit. Grâce au Dupont, ça lui permet de jouer encore avec les clichés quand il voyage. C'est toujours eux qui ont un peu le regard du beauf, on va dire, sur le pays qu'il traverse.
Oui, c'est très amusant parce qu'au fond, les Dupont, c'est les figures de l'autorité.
Ouais.
C'est les figures de la police, de la loi. Or, dans ce journal pour enfants où Tintin paraît, on se moque des figures de la loi, comme on va se moquer des familles traditionnelles, affublées de trop nombreux enfants avec Séraphin Lampion. Il y a une ironie. C'est assez amusant de penser qu'il a été accepté par des milieux traditionnels, notamment par les milieux catholiques, alors qu'il y a dans l'œuvre d'Hergé de l'alcoolisme, des cauchemars, des momies et des figures de l'autorité complètement ridicules. Donc il y a une dimension...
Des fous furieux.
Un peu anarchiste dans Tintin, à côté de quelque chose de très sage dans l'apparence des pages et dans le système de couleurs.
C'est vrai que c'est pas aussi lisse en vous écoutant parler, je me rends compte que c'est pas aussi lisse que ce qu'on peut penser en fait.
Bande et contrebande. C'est une des habiletés d'Hergé.
Il y a un autre moment où Hergé brasse des idées noires, un peu au moment où il avait voulu décrocher la lune pour en sortir. Un peu plus tard, il y a un moment un peu similaire où il brasse donc des idées noires ou peut-être même des idées blanches comme neige, la neige des sommets. C'est au moment où Tintin va au Tibet, Hergé dort mal et son héros Tintin cauchemarde.
D'abord, Tintin.
Oh, je vous demande pardon. Je suis désolé, capitaine. J'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé de mon ami Chang. Il avait survécu à un accident d'avion et appelait au secours.
Benoît Peters, vous dites que Tintin au Tibet, c'est l'album le plus personnel d'Hergé. Pourquoi ?
C'est un album où Hergé a essayé d'atteindre l'émotion. Il a longtemps pensé que la bande dessinée ne pouvait pas traduire les émotions fines. Lui-même vivait une situation très difficile. Il était en train de se séparer de son épouse avec toute la culpabilité d'un jeune homme élevé dans un milieu catholique, traditionnel, l'idée du respect de la parole donnée, du scoutisme, etc. Donc cette séparation était très très douloureuse. Il faisait des cauchemars de blanc, exactement comme Tintin en fait. Il consulte un psychanalyste en Suisse, un disciple de Jung, qui lui conseille d'arrêter immédiatement son travail pour se reconstruire. Et Hergé fait exactement le contraire. Il s'accroche à son travail et il fait passer l'ensemble des difficultés qu'il est en train de vivre dans cette histoire. Alors on a plusieurs moments de déchirement, par exemple sur la paroi quand Haddock dans une ascension est tombé, il est encordé avec Tintin et Haddock supplie Tintin de couper la corde qui les relie. Mais Tintin s'y refuse. Ils seront sauvés un peu miraculeusement. Et il y a une autre séparation déchirante et très émouvante que Michel Serres, qui est un grand spécialiste de Tintin, à côté de toutes ses autres spécialités que Michel Serres a magnifiquement commentées, c'est l'idée de la séparation avec le Yéti. Ce soi-disant abominable homme des neiges qui en fait a sauvé Chang en attendant que Tintin arrive. Et cet abominable homme des neiges qu'on abandonne à la fin, à sa douleur, à sa tristesse. Et c'est vraiment la métaphore de la séparation qu'Hergé est en train de vivre avec sa première épouse. Alors, bien sûr, un lecteur, un enfant qui dit Tintin
ne le voit pas,
et tant mieux qu'il ne le voit pas. Mais quand nous connaissons tout cet aspect, nous comprenons peut-être aussi la source de l'émotion si intense que cet album peut provoquer à des gens de toute nature.
Oui, y compris le Dalaï Lama. Vous me disiez que le Dalaï Lama adore Tintin au Tibet.
Alors, j'ai eu la chance de rencontrer le Dalaï Lama et de l'interviewer à propos de Tintin au Tibet, qui racontait aux esclaffants, en racontant les bêtises du capitaine Haddock, qui se trompe tout le temps dans les codes. Et le Dalaï Lama voit dans Tintin au Tibet un album qui est un merveilleux ambassadeur de la cause tibétaine. Vous savez que cet album a été dessiné en 1959, au moment même où le Dalaï Lama quittait le Tibet. Donc c'est une rencontre, évidemment. Il n'est pas question de cet aspect politique dans l'album, mais symboliquement, il y a un lien très fort qui s'est établi entre Tintin, le Tibet et peut-être la cause tibétaine.
Irma, au nom du ciel, parlez, ma fille!
Vos bijoux, madame, ils ont disparu!
Extrait des bijoux de la Castafiore. Alors, mais c'est souvent le cas dans plusieurs albums et dans celui-là, Hergé va casser beaucoup de codes et notamment tout se passe à Moulinsart. On ne sort pas du château, Benoît Peters.
Oui, c'est une anti-aventure, c'est un album tardif où Hergé joue avec ses propres codes, montre qu'il connaît le système, joue avec les attentes du lecteur. C'est un faux roman policier d'une certaine façon, ouais. Parce qu'on cherche le coupable alors que les bijoux n'ont pas encore été vraiment volés. C'est aussi un album sur le voyage, puisque si les personnages principaux ne bougent pas, il y a les gens du voyage, les Romanichels, qui sont installés dans le parc du château, et il y a une relation très belle et très forte et très complexe entre les Romanichels et les personnages de Tintin. Les Dupont, évidemment, eux, sont persuadés que si un méfait est arrivé, c'est forcément à cause des Romanichels, et il y aura cette phrase extraordinaire à un moment où on découvre que c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui a fait le crime, on ne va pas tout dire. Les Dupont s'exclament, c'est bien notre chance, pour une fois que nous tenions des coupables, il faut qu'ils s'arrangent pour être innocents. C'est une des répliques inoubliables, je trouve, de Tintin. Il y a un talent graphique, un talent narratif, il y a un humour, une drôlerie de caractérisation des personnages, mais c'est aussi un très très grand dialoguiste, et ça on ne le dit pas toujours assez.
Et vous nous l'avez dit en début d'émission, c'est à ce moment-là où Tintin se pose à Moulinsart que Hergé, lui, se décide enfin à voyager.
Mais oui, Hergé, avec celle qui deviendra sa seconde épouse, commence à goûter un peu plus à la vie, il s'essaie à la peinture, il commence à collectionner des tableaux modernes, à lire beaucoup plus qu'il ne le faisait, et à voyager. Et c'est un paradoxe évidemment amusant de voir Tintin se sédentariser au moment où Hergé enfin peut donner libre cours à ses envies.
Il va où, Hergé ?
Il va aller aux États-Unis, il ira à Taïwan, mais pas dans la véritable Chine, il ira à Bali. Enfin bon, voilà, c'est pas un voyageur très aventureux, mais tout de même, à la fin de sa vie, il partira sur les traces de Tintin.
Et alors finalement, quel regard portait Hergé lui-même sur son succès mondial ? Parce que les albums aussi vont voyager, vont être traduits dans de multiples langues. Je laisse le soin à Jacques Chancel de lui poser la question.
Alors, à votre avis, si vous avez pu obtenir ce résultat, c'est parce que vous aviez du talent comme dessinateur, que vous aviez du talent comme conteur, ou bien que vous aviez du savoir-faire?
C'est une question que je me pose parfois, et ça m'arrive à l'occasion de l'arrivée d'une lettre, par exemple. Il y a des petits hindous qui m'écrivent, des petits cingalais, des suédois, des brésiliens, et je me demande chaque fois comment il se fait que par le truchement de Tintin, traduit bien entendu dans la langue du pays, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de commun entre un petit garçon de Bénarès et moi, enfin? Quel est ce petit miracle? Et je trouve ça toujours un petit miracle. Est-ce de la chance? Est-ce du talent? Est-ce la narration? Je n'en sais rien, je ne peux pas répondre à ça. Je fais mes pommes et je ne sais pas là, je ne les mange pas moi-même, quoi.
Le regard presque naïf, étonné de Hergé sur le succès de son œuvre.
Oui, le Hergé aussi médiatique, le Hergé qui se construit pour se protéger, pour éviter les questions difficiles. Quand on arrivait à parler avec lui, hors micro, brusquement il se mettait à dire des choses extrêmement profondes et intelligentes qu'il n'aurait jamais dites, en tout cas à Jacques Chancel.
C'est-à-dire qu'il aurait dit quoi sur
son œuvre ? Il se protégeait beaucoup, il se protégeait beaucoup, mais il savait quand même un petit peu ce qu'il faisait. Et il avait souvent un regard très fort sur la bande dessinée. À la fin de sa vie, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on le voit être passionné, beaucoup plus que par ceux qui l'imitent, par Claire Bretéché, par Reiser, par Volinsky, par Fred qui créait Philémon. Il était amoureux d'une bande dessinée finalement très moderne et il continuait lui-même à évoluer, à chercher.
Michel Pierre, s'il y avait un Tintin à conseiller ou à redécouvrir, ce serait lequel ?
Oh, peut-être tout le cycle qui peut toucher à l'Amérique du Sud, entre l'Oreille cassée, même jusqu'à Tintin et les Picaros, qui est parfois un album sous-estimé, qui est un album assez passionnant. Donc pour retrouver ou aller sur les pas de Tintin, je dirais le Pérou et le sud de l'Amérique latine. Ouais.
Et les Picaros, vous me disiez, il prend tout à l'envers.
Là aussi, c'est un jeu sur les codes. C'est un petit peu comme pour les bijoux de la Castafiore, c'est-à-dire on va nous montrer, par exemple, Tintin avec un chat dans les bras par rapport à Milou. On voit le capitaine Haddock qui n'arrive absolument plus à boire une seule goutte d'alcool. On voit des maquis sud-américains soutenus par une grande multinationale américaine. Et on voit à l'inverse un régime dictatorial soutenu par la bordurie néo-stalinienne. Donc tout est pris à l'envers et tout est une remise en cause, en quelque sorte, de codes précédents.
Benoît Peters, un album à citer que vous conseilleriez ?
Oh, une merveille, par exemple, Les Sept Boules de Cristal. L'album de mystère, de terreur, La Momie de Raskar Kapak. Hergé est capable aussi de nous faire peur.
Allez, je rappelle le titre de vos ouvrages à vous, Benoît Peters, Hergé, fils de Tintin, chez Flammarion, et Michel Pierre, le géobook, Bien choisir son voyage sur les traces de Tintin. Merci à tous les deux.
Merci.
Allez, viens, Milou, en route pour de nouvelles aventures.
Restez avec nous. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Éric Birloez pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, il va nous emmener sur les routes de la banane.
Tout est si beau dans la ville ce soir. Des lycéens, cheveux trempés. Brighton, Kyoto, sur le même trottoir. Et toi, tu voulais me parler. Vous deux, c'est fini, ça c'est fini seulement. Je regarde la nuit, je t'écoute en même temps. Gorge serrée. Mais si tu savais, si tu savais seulement. Mais si tu voyais tes yeux à cet instant. La beauté.
C'était Vincent Delerme qui chantait si beau sur France Inter.
Sens-moi ça, ça sent bon, ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Et il est l'heure de retrouver Éric Birloez. Bonjour Éric.
Bonjour Daniel.
Sociologue de l'alimentation, vous passez tous les jeudis dans l'émission pour nous emmener sur la piste d'un aliment qui a fait du chemin pour arriver sur nos tables. Aujourd'hui, on s'intéresse à un fruit.
Oui, un fruit exotique qui pousse dans les lointaines régions tropicales au climat chaud, humide, et qui est pourtant le fruit le plus consommé chez nous, en France, mais aussi dans le monde, c'est la banane.
Et quelle est l'origine alors géographique de la banane ?
L'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, où il existait deux espèces sauvages qui sont les ancêtres de tous les bananiers cultivés. La domestication du bananier a été réalisée sur l'île de Nouvelle-Guinée il y a environ 10 000 ans.
Oui, alors ça peut valoir le coup qu'on s'arrête dessus, parce que le bananier, c'est un arbre assez étrange. Hein.
Oui, parce que c'est pas un arbre en fait, c'est voilà. Une herbe géante. La plus grande du monde, elle peut atteindre jusqu'à 15 mètres de haut. Son tronc est un pseudo-tronc. Il n'est pas fait de bois, mais de l'emboîtement des gaines des feuilles. Les feuilles, elles partent de la tige qui est souterraine, et puis leurs bases s'enroulent les unes autour des autres, comme dans le poireau, si vous voulez, pour former une espèce de tube que l'on considère à tort comme un tronc.
Et il existe de très nombreuses variétés de bananes cultivées.
Ah oui, plus de 1000 variétés qui se répartissent en deux grands groupes, les bananes dessert, sucrées, et les bananes plantains que l'on doit cuire. Mais en fait, il existe bien d'autres différences. Des bananes à graines ou sans graines, droites ou courbes, vertes ou jaunes, ou encore roses, ou panachées, tigrées, argentées, etc. Alors parmi les bananes dessert, la plus exportée, c'est de loin la banane de type Cavendish. En 1960, elle a remplacé la variété Gros Michel, c'était son nom. 20 années plus tôt, cette dernière avait subi les attaques d'un champignon qui avait provoqué une pathologie, la maladie de Panama. Alors heureusement, au siècle précédent, 19e, Sir William Cavendish, qui était le président de la Société Royale d'Horticulture Britannique, avait fait pousser, dans sa serre personnelle, un bananier d'une variété asiatique qui, elle, s'est avérée après coup résistante à la maladie de Panama.
Ah, et l'autre grand groupe, c'est la banane plantain.
Oui, on peut la manger que cuite, parce que même à maturité, une partie de son amidon ne s'est pas transformée en sucre, ce qui la rend peu agréable à manger crue. Alors en Afrique, aux Antilles notamment, on la prépare frite, bouillie, en purée, en farine ou encore en chips.
Et si l'on reprenait donc cette route de la banane à travers les siècles?
Eh bien, après leur domestication en Nouvelle-Guinée, les bananiers sont diffusés dans les îles de l'Asie du Sud-Est, et là, ils vont s'hybrider, se croiser avec les bananiers sauvages autochtones. Et puis, les Indonésiens transportent les plants d'archipel en archipel, et de là, la banane gagne l'Inde, et c'est là où on trouve d'ailleurs les premières mentions écrites de banane dans des textes bouddhistes vieux de 2500 ans.
Ah oui.
Le bananier traverse ensuite l'océan Indien, et il gagne l'Afrique.
D'accord, mais alors les Européens, eux, quand découvrent-ils les bananes ?
Alors, ils en entendent d'abord parler au retour de l'expédition d'Alexandre le Grand, qui avait atteint les frontières de l'Inde au 4e siècle avant notre ère. Ouais. Mais en fait, ce sont les Arabes qui, bien plus tard, on est au 10e siècle, vont diffuser l'herbe, dans le sud de l'Espagne. À partir du 15e siècle, les navigateurs portugais qui ont établi des comptoirs commerciaux en Asie et en Afrique, eh bien, ils font voyager les bananiers jusqu'en Amérique du Sud. Mais pendant encore 4 siècles, la banane n'est pas consommée en Amérique du Nord et en Europe. En fait, les premières importations aux États-Unis en provenance des Antilles ne débutent que vers 1870. Mais en 1899 est créée la société United Fruit.
Et c'est là que tout change dans le petit monde du business de la banane.
Ah oui, absolument. Cette compagnie et ses concurrentes états-uniennes créent des immenses plantations en Amérique centrale, en Colombie, aux Antilles. Elles acheminent les bananes jusqu'en Amérique du Nord, en Europe. Dans les pays producteurs, ces entreprises contrôlent absolument tout. Les ports, les chemins de fer, les écoles, les églises, les radios, le système de santé, les épiceries.
Ah oui.
Elles exploitent les travailleurs autochtones, détruisent l'environnement, imposent la monoculture de la banane. Elles font et défont les gouvernements en place au gré de leurs intérêts particuliers. Leur puissance est très supérieure à celle des États d'Amérique centrale qui se trouvent affublés de l'appellation péjorative de République bananière.
Ah, ça vient de là, d'accord. Et quand la banane débarque-t-elle en France ?
Seulement à la fin du 19e siècle. Et là, le succès est immédiat. En 1900, la France importe 400 tonnes de bananes. 10 ans plus tard, 22 000 tonnes. Alors, les raisons de ce succès ? La banane est pratique à transporter, facile à éplucher. Sa pulpe moelleuse et sucrée ne comporte ni pépins ni noyaux. Enfin, elle plaît à tous, enfants compris. Elle est peu coûteuse et très énergétique, car riche en glucides.
Et pour finir, alors quelques mots sur l'économie de la banane, Eric ?
Eh bien, aujourd'hui encore, la banane, c'est une nourriture de base pour 1,5 milliard de personnes dans les régions tropicales pauvres de la planète. Selon la FAO, en 2023, le premier producteur de bananes dessert était l'Inde, avec 27% du total, très loin devant la Chine, 9%, et l'Indonésie, 6%. La production de bananes plantain, plus largement de bananes à cuire, était, elle, 3 fois moins importante. Le leader était l'Ouganda. Ouais. Sur le continent européen, la première place est revendiquée par l'Islande, dont la très très anecdotique production locale est réalisée dans des serres chauffées par la géothermie. Les deux vrais leaders dans l'Union européenne sont l'Espagne et la France, avec la Guadeloupe et la Martinique. Mais ces deux départements, vous le savez, sont victimes d'un énorme scandale lié à l'autorisation du chlordécone. Cet insecticide a été massivement utilisé dans les bananeraies jusqu'en 1993. Or, il était interdit aux États-Unis depuis 1976, en raison de sa très grande toxicité.
Merci Éric Birloez. Je rappelle que vous avez publié Le Pain, une croustillante histoire aux éditions Quae. Et je signale également Histoire de l'alimentation des Français aux éditions Ouest France. Un grand merci à vous Éric et à jeudi prochain.
À bientôt Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures. Et après le flash, vous retrouverez Philippe Collin pour Face à l'Histoire. Aujourd'hui, les résistantes sur un champ de ruines.